Parce qu'il y a 30 ans, c'était pas du tout ça. Le pays de la gastronomie et le jeûne, ça va pas ensemble. C'est même un acte de lèse-majesté que de ne pas manger, quoi. Et j'ai appris qu'au cours de la semaine, vous êtes déjà informé sur l'histoire jeûne et randonnée, donc je peux couper court. Et le premier sujet qui m'occupe aujourd'hui, c'est l'évolution de 2000 à aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que 2000, c'est une date clé, parce que c'est l'année où la première version de mon livre chez La Plage est arrivée. C'était un petit livre de 128 pages, le petit format plus fin, comme ça, un format de ce type-là. Et en 2004, avec l'arrivée de l'euro, la FNAC ne voulait plus le vendre parce qu'il coûtait 7,90 €. Et la FNAC ne voulait pas vendre un bouquin qui coûte moins que 10 €. Alors l'éditeur de l'époque, un certain Jean-Luc, m'a demandé d'augmenter le contenu pour avoir le format standard et surtout pour que le prix passe de 7,90 € à 12,50 €. Vous voyez, c'était une affaire encore commerciale. Alors j'ai réécrit le livre en 2004 et tenez-vous bien, il y a un mois ou deux, les nouveaux gérants de la maison de La Plage ont dit, mais on n'a plus votre ouvrage. Et depuis 2004, il y a des choses qui sont arrivées. Refaites-moi 30 pages et révisez le bouquin de 2004 pour le mettre à jour 2020, quoi. Et tout le mois de novembre, j'ai travaillé sur le sujet qui sera le mien maintenant pour, je sais pas, 45 minutes ou 50 minutes à venir. C'est-à-dire l'évolution de jeûne et randonnée depuis 2000. Alors, 2000, le livre que je viens de citer a eu un premier résultat extraordinaire. Une journaliste m'envoie un mail, je crois, en disant que j'ai lu votre livre et ça me parle. De cette manière-là, j'aimerais faire des articles sur jeûne et randonnée. Et puisque c'était au début du salon Marjolaine, oui. Oui, 2000, je crois, Marjolaine 2000. On a pris rendez-vous le samedi au moment de l'ouverture de Marjolaine à Paris. J'ai discuté 2 heures avec elle. Elle m'a enregistré sur un magnétophone à l'époque. Et elle en a fait un article de 5 pages dans Psychologie Magazine, qui sortit le mois d'après, au mois de janvier. Et tous ceux qui connaissent un peu notre activité ici, jeûne et randonnée, en hiver, on va en Tunisie. Alors, je me rappelle, admettons le 2 janvier, je sors du désert, le téléphone se réveille parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau dans le désert. Un ami m'appelle, t'as lu l'article? Et bien sûr, je ne l'ai pas lu parce que dans le désert, je ne pouvais pas lire un article dans Psychologie Magazine. Alors, le groupe était terminé et on a pris le bateau ou l'avion, je ne me rappelle plus. Mais à la gare Saint-Charles de Marseille, j'ai acheté Psychologie Magazine et j'avais 2 heures devant moi dans le train de Marseille à Serres dans les Hautes-Alpes, à 1 heure d'ici. Et j'ai lu l'article et c'était un article merveilleux que vous trouvez bien sûr dans les médias, dans les archives sur notre site jeuneetrandonnee.com. Parce que c'est cet article-là qui a déclenché une demande extraordinaire. Et maintenant, je reviens quand même en arrière, dans les années 90, de temps à autre, il y avait des gens comme vous qui avaient déjà un bagage, admettons, naturopathie ou sophrologie, ou je sais pas, qui m'ont dit, mais ça m'intéresserait moi de faire proposer des stages comme ça. Et je les ai tout de suite arrêtés en disant, bah, écoutez, nous, on a 3 personnes par-ci, 4 personnes par-là. C'est une affaire qui ne marche pas. C'est pas la peine, quoi, d'avoir plusieurs organisateurs. Mais dans le train, quand j'ai vu l'article, j'ai appelé à la maison. Ma femme était à la maison, Gertrude, et j'ai dit, mais tu sais qu'il y a un article dans Psychologie Magazine. Elle m'a dit, mais ne m'en parle pas. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Donc le téléphone n'arrête pas de sonner. Là, on est au mois de janvier 2000, ou 2001 plutôt. Et par la suite de cette année-là, on a eu des stages avec 45 personnes. Or, on a une capacité d'accueil de 15 personnes. Donc, on a occupé tous les gîtes dans un rayon de je ne sais pas combien. Et le bus qui servait déjà à chercher les gens à la gare Valence TGV servait maintenant à réunir le monde le matin. Disons, c'est là où j'ai encouragé tous ceux qui m'avaient timidement dit, mais ça m'intéresserait. J'ai dit, le moment est venu parce qu'on est débordé, on est débordé, on est débordé. Et en 2003, on a essayé la première fois de former une formation. Ça a plus ou moins raté. Je passe un peu les détails. Habituellement, en 2004, avec sept membres fondateurs, je crois on était sept, la fédération s'est lancée, qui s'appelait encore Fédération française de jeunes randonnées. Et pourquoi est-ce qu'on a dû changer de nom? Parce que je reçois, en tant que président de la Fédération française de jeunes randonnées, un courrier, peut-être un mail, de la part du ministère du sport, en disant que le terme Fédération française est soumis pour une activité sportive, et la randonnée est une activité sportive, est soumise à, disons, l'appellation est soumise à une autorisation du ministère du sport, quoi. Et puisqu'il existait déjà une fédération française de randonnée, il n'y a pas la place pour deux fédérations françaises de randonnée. Alors, là, on l'a mis au vote, on était maintenant 12 membres peut-être, et la majorité était pour, oh, je ne me rappelle plus, FJR, Fédération de jeunes randonnées, FJR, oui. Mais finalement, aujourd'hui, c'est devenu Fédération francophone de jeunes randonnées. Comme ça, le sigle FFJR restait pareil, le site est resté le même. Donc là, on est en 2004. Et il faut dire que je vous ai déjà dit que il était l'article dans Psychologie Magazine était important parce que ça a déclenché une demande. Et dans les années qui ont suivi, j'ai toujours accepté et j'ai encouragé tout le monde de toujours accepter, et je vous encourage pour l'avenir, de toujours accepter les contacts avec les médias, parce que à chaque fois, et tant que c'est moi qui surveillais les statistiques du site, dès qu'il y avait une émission à la télé, rien qu'à Lioux, il y en a eu 5-6, j'ai vu le nombre de visites sur le site de la fédération, fgr.com, a passé de 500 à 15 000, vous voyez? Et il y avait même une petite histoire, un bonhomme que j'ai rencontré lors d'une conférence à Marjolaine. Il distribuait des tracts à des gens qui quittaient ma conférence. Et ce n'est pas de bonne guerre parce que, en quelque sorte, il profitait de la concentration du monde qui est venu dans ma conférence, mettons une centaine de personnes. Il leur donnait des tracts sur quoi? Sur la cure de Breuss. Vous connaissez la cure de Breuss? Certainement, non. C'est un naturopathe allemand, autrichien, des années 50, qui a dit, parce que là, je reviens plutôt dans les années 30, Otto Buchinger, il a essayé le jeûne dans sa clinique au nord de l'Allemagne. Il a essayé le jeûne contre le cancer. Il n'a pas vu de résultat avec les moyens des années 30. Et un naturopathe, donc pas un médecin, il était électricien dans sa vie, je crois, Rudolf Breuss, Breuss. Vous pouvez noter ça parce qu'avec ça, vous trouvez son ouvrage, Breuss. Et là, je reviens à ce bonhomme-là qui m'a appris que le livre existait en langue française. Et alors, du coup, je le fais venir imprimé en Allemagne, mais en langue française. Je fais venir des cartons de ce livre-là et tous les stagiaires qui passaient chez nous ont pris un exemplaire aussi pour 7-8 euros à l'époque. Et alors, ce bonhomme-là, lors d'une victoire de la musique au Zénith à Paris, Il s'est infiltré dans les coulisses. Je vous passe les détails. Et au moment où une chanteuse commençait une chanson d'amour, on le voit apparaître en direct, hein, avec Drucker et Nagui. On le voit, il prend le micro de la chanteuse et sa première phrase, c'était « Excuse-moi, ma sœur ». Et après, maintenant, il était en direct, hein. Le cancer est guérissable par des méthodes naturelles. Je me suis guéri du cancer par la cure de Bruce. Tapez Bruess. Et là, après, les sbires l'ont sorti de la scène. Vous voyez, parfois, être maquis, parce que là, c'est une action de maquis. Il y a eu des centaines de milliers de visites sur le site parce que j'avais mis le texte du livre de Breuss en version allemande, disons française, sur le site parce que le livre n'existait plus. Voyez, ça c'était un coup comme ça. Je me rappelle plus exactement quelle année, mais sinon il y a eu. Alors là, je m'approche de 2010 parce que c'était très important. Il y a Sylvie Gilman qui me contacte. On a eu des contacts par mail, par téléphone. Elle a dit, oui, j'ai vu votre livre et on veut faire un film pour Arte sur le jeûne thérapeutique. Est-ce qu'on peut pas en parler? Alors, on a commencé à parler, non, Skype, on n'avait pas à l'époque. Donc, on a échangé des mails. Mais c'est à ce moment-là que Jean-Claude Noyer, le prénom, je ne suis pas sûr, Noyer, le grand livre du jeûne chez Albin Michel, il a organisé les premières assises chrétiennes du jeûne à Saint-Étienne. Et Gertrude et moi, on était en quelque sorte invités d'honneur parce que, en fait, nous, on ne fait pas de jeûne religieux, on fait un jeûne diététique. Mais les gens qui avaient un arrière-plan religieux retournaient dans leur paroisse et au moment du carême, quand le prêtre disait alors maintenant mange moins de chocolat ou des choses comme ça, parce qu'on ne jeûne plus vraiment pendant le carême, c'est là où ils ont levé le doigt en disant que mais le jeûne existe, je viens de faire une expérience. Alors petit à petit, le jeûne s'est réintroduit dans la religion, admettons, catholique. Et comme résultat que 2010, les premières assises chrétiennes du jeûne à Saint-Étienne. Et 700, non, 700, non, 70, 700, oh, je me rappelle, avec un monde de fous, quoi. Et pendant 3 jours, au mois de février. Et c'est là où j'ai rencontré Sylvie Gilman, qui m'a parlé de son projet de film pour Arte. Je lui ai donné tout mon carnet d'adresses et j'ai établi, parce que pour le contact avec la Russie, les Russes ne sont pas du tout, n'ont pas du tout, ne sont pas du tout, ne veulent pas du tout du contact avec l'Occident, parce que on les considère comme des moins que rien. Donc ils n'ont pas envie. Donc c'était difficile pour Sylvie Gilman et son mari, Thierry de Lestrade, d'avoir des contacts, mais je fais de la sorte que le film commence. Je pense que vous l'avez tous vu, le film, et sinon, il faut le voir avant que vous vous séparez. Le film Le jeûne tirait une nouvelle thérapie. Et là, d'ailleurs, vous le trouvez sur YouTube, il y a toujours une version volée quelque part. Aussi, je fais de la sorte à ce que Sylvie Gilman soit invitée au congrès annuel des médecins de langue allemande sur le jeûne. Et elle a fait une conférence que vous trouvez sur notre site jeûneranonné.com, dans les médias, je dirais c'est 2011, cherchez par là dans les archives. Donc. Une conférence où elle parle de la réception, où elle dit d'emblée, et là vous voyez un peu la différence, Jeûneranonné vient de l'Allemagne. Et ce documentaire, qui est une production Arte, franco-allemande donc, En français, ça s'appelle le jeûne tiré une nouvelle thérapie avec un point d'interrogation. Alors, ces titres-là, en Allemagne, ça ne pouvait pas passer. Alors, Fasten und Heilen, neueste wissenschaftliche Forschung. En allemand, il s'appelle le jeûne et la guérison par le jeûne, dernière recherche scientifique. Vous voyez, pour intéresser un public allemand, il faut dire le jeûne, vous connaissez, et que il y a une douzaine de cliniques de jeûne en Allemagne. Et si pour attirer un public qui pour lequel le jeûne est une vieille histoire, il fallait les faire venir par les dernières recherches scientifiques. Alors, on peut dire pour jeûner randonnée, pour le jeûne en France, le tournant, c'est vraiment le documentaire Arte qui a passé la première fois, il me semble, en 2012, au mois de mars, et qui est repassé. Et Thierry de Lestrade m'a dit que il a passé dans 17 pays parce qu'il existe dans 3 langues. Et d'ailleurs, le premier pays à l'avoir diffusé, c'est pas la France ni l'Allemagne, c'est le Canada. Mais disons, ça c'est la petite histoire. Donc, on peut dire pour le jeûne en langue française, le tournant, c'était le documentaire Arte. Et si vous le revoyez, je n'y apparais pas. Et pour une raison très précise, et là je m'adresse à vous tous, j'ai bien compris quand on a lancé Jeûner et Randonner en 90 qu'il faut éviter 2 choses quand on veut faire avancer la question du jeûne en France. Il faut éviter les implications spirituelles du jeûne, parce que tout de suite on est classé comme secte. Et deuxièmement, il faut éviter tout ce qui a trait à la guérison. C'est-à-dire, vous n'avez jamais le droit, vous êtes presque à la prison, si vous acceptez une personne qui dit, mais j'ai tel ou tel problème, et vous dites, oui, faites 2 ou 3 semaines. Et si la personne après dit, c'est le jeûne qui m'a guéri, mais chez qui? Chez une telle ou un tel, là, c'est la prison, disons, c'est interdiction, l'exercice illégal de la médecine. Donc, il faut éviter les implications du jeûne, implications spirituelles du jeûne, et il faut éviter les possibilités thérapeutiques, vous pouvez en parler, et ce serait un travail pour la fédération de constituer, ah mais non, et maintenant ça existe, l'Académie médicale du jeûne. Et si j'ai bien compris, là il y a encore un obstacle, et vous en avez entendu parler de ça hier ou avant-hier. C'est pas une Académie médicale du jeûne thérapeutique, parce que le jeûne comme thérapie est interdit en France pour l'instant. Mais c'est quand même, ça c'est à l'ordre du jour, donc il faut garder le contact. Et ça, je l'ai vu dans les réunions annuelles du jeûne médical en Allemagne, où il y a toujours le dimanche matin, où les associations non médicalisées parlent de leur progrès depuis l'an passé. Et c'est là où une femme médecin a lancé un truc. Si un médecin, et en France aussi, il y a le secret médical, et à l'intérieur d'un cabinet médical, le médecin peut conseiller le jeune, il n'ira pas à la prison pour ça, mais puisqu'il n'a pas de structure pour accompagner un jeune, vous voyez, ça c'est une perspective et pour la fédération et pour tous les organisateurs. Le médecin qui veut faire jeûner une personne qui a du rhumatisme, par exemple, il peut faire un plan, maintenant faites 15 jours de jeûne et revenez me voir. Alors, pour ne pas envoyer cette personne à la maison, qu'il jeûne à la maison, il va donner un coup de fil à l'organisateur jeûner randonnée le plus proche. Et ça, c'est une perspective à mettre en place de façon structurée, que chaque organisateur peut être contacté par un médecin à 50 km de là qui lui envoie un patient ou c'est le médecin qui prend la responsabilité médicale et les organisateurs généranonais qui ont une expérience d'accompagnement de jeûne, qui peuvent accompagner le jeûneur. Et sans avoir le, mais ils prennent le téléphone de suite ou n'importe quel moyen de communication pour dire mais qu'est-ce que je fais, la patiente, elle a ceci et cela. Et lui, il peut dire mais qu'elle revient de suite dans mon cabinet parce que là, il faut changer, je sais pas quoi. Et tout cela ne peut marcher que sur le plan local. Et donc voilà, c'est une perspective que je donne. Donc je ne parle plus de l'évolution des jeunes de 2000 à 2020. Donc, je reviens à ce sujet-là, mais c'est une perspective 2020 à 2050, quoi. Et je reviens à 2010-12. Il y a eu trois prix Nobel qui m'ont étonné et enchanté. Le premier, c'était une Chinoise qui a eu le prix Nobel il y a peut-être 5-6 ans en arrière. Elle a un nom qui ressemble à YouTube, mais vous savez de qui il s'agit. C'est sur la plante
Artemisia.
Artemisia, parce qu'elle a, elle a, elle a réussi à en sortir. C'est une plante contre le paludisme. Et ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Et on en a sorti l'agent actif. Mais parallèlement à ça, donc prix Nobel pour ça, parce que ça ouvre des perspectives extraordinaires, parce que le paludisme est un vrai problème, mais de l'humanité. Et la réponse est très simple, il faut avoir quelques plants d'Artemisia dans son jardin, et en cas d'attaque du paludisme, 10 jours de tisane d'Artemisia, et le problème est réglé. C'est donc tapez Artemisia et vous allez trouver tout ce qui va avec. Alors, ça, c'était le prix Nobel, admettons 2015. Et en 2016, un Japonais, donc une Chinoise, maintenant un Japonais, un biologue japonais qui obtient le prix Nobel de la médecine. Vous voyez? Voyez un peu? La médecine, pour avancer, a besoin de biologues. Parce que la médecine elle-même, disons, apparemment, a besoin d'un coup de main. Et alors, sur quoi? Sur l'autophagie. L'autophagie. Et ça, c'est le terme biologique d'un phénomène qui est commun à tous les êtres vivants, de pouvoir faire des réserves et de les utiliser. Et quand on utilise les réserves, et c'est simple, là, on est à l'entrée de l'hiver. On fait des réserves à l'automne parce que partout il y a des récoltes, donc on fait des réserves au grenier à l'époque, mais aussi sur les hanches à l'automne, et on les utilise pendant l'hiver. Et la procédure qui se met en place pendant l'hiver, c'est l'autophagie pour un biologiste. Pour un médecin, à l'époque, je parlais plutôt de autolyse, parce que pour une raison que j'ignore, les médecins appelaient ça autolyse. Et maintenant, je reviens vraiment en arrière. Il y a un stagiaire qui, le dimanche, la première balade, il a dit, mais tu sais, il a dit qu'il a été directeur de création chez Publicis. Publicis, vous voyez. Et il a fait des études de littérature et tout, donc on avait des choses en commun. Alors pendant la première balade, je me suis adressé de Daniel Vigna, pour citer son nom, et je lui ai dit, mais comment se fait-il que le jeûne a si mauvaise presse en France? Parce qu'en Allemagne, c'est pas du tout pareil. Hein. Et là, il m'a mis sur la piste en tant que responsable, ancien responsable, parce qu'il a arrêté ce travail par conviction, parce qu'il voyait qu'il était dans le mauvais bateau. Et il a dit, oui, tu sais, la France, c'est le pays de la gastronomie. Et donc, on a fait la balade. Et au retour de la balade, il est revenu à ma hauteur. Il a dit, mais je crois que je trouvais ce que tu cherches. Et je dis, mais voilà, qu'est-ce que c'est? Il a dit, plutôt que de parler de autolyse, c'est un terme que personne comprend vraiment, tu peux parler de autorestauration. Autorestauration. Vous voyez, moi, je fais des études linguistiques, de littérature. Quand il m'a dit ce terme-là, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est génial! C'est génial! Auto-restauration. On va non pas au resto, on va dans un état d'auto-restauration. Avec ça, on peut faire venir les Français. Et ce terme-là est à l'origine, d'ailleurs, c'est le sous-titre de la première version de mon livre, Le Jeûne, parce qu'on n'a rien ajouté, parce qu'à l'époque, c'était peut-être le premier livre sur le jeûne. L'auto-restauration face à la suralimentation, ou quelque chose comme ça, le sous-titre, j'ai oublié un peu. Donc, le terme auto-restauration, c'était le maître mot de la première version de mon livre. Et ce terme-là, maintenant, c'est autophagie qui a pris le dessus. Donc, prix Nobel d'un Japonais, j'ai oublié son nom, à peu près en 2016, sur l'autophagie. Et alors, tout de suite, au moment où j'ai connu ça, que je suis qu'il avait le prix Nobel de la médecine, je me suis branché sur le site norvégien à l'époque qui a justifié ce choix-là. Ils ont dit oui, c'est une dame qui a fait un discours de 1 heure ou 2. Oui, c'est un biologiste, mais ses publications qui datent des années 80-90 ont déclenché une foule de recherches médicales et qui ont fait avancer la recherche médicale via l'autophagie. Et c'est là où, d'un coup, on avait une bénédiction du prix Nobel, quoi. Le jeûne, là, je coupe court un peu. Je vous ai dit que tout le mois de novembre, je fais le manuscrit pour la réédition de mon livre qui sortira en début de l'année, là. Et en détail, je passe en revue les attaques qu'on a subies dans les années 2000-2010 de Jean-Michel Cohen, Frédéric Seidmann, disant les chiens de garde du système pour que tout reste comme ils le souhaitent, quoi. Et alors, même Frédéric Seidmann et Jean-Michel Cohen, dans leur dernier livre, je viens d'acheter le dernier, non pas parce que je voulais l'avoir, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il dit sur le jeûne. Il y a 5-6 pages dans le dernier de Seidmann, il y a peut-être même 10 pages favorables au jeûne, mais pas au jeûne d'une semaine que vous allez proposer vous, mais sur le jeûne intermittent. Et une des questions de mon livre, oui, il y a le jeûne intermittent, le 5-2, le 16-8, le jeûne irannoné, le jeûne thérapeutique, quel est le meilleur jeûne? Et ma réponse, il me semble, c'était déjà ma réponse en 2004. Je repose la question sur un autre plan. Vous êtes tous ceux qui ont un travail salarié, vous êtes très contents de pouvoir rentrer à la maison à 5 heures quand le travail est terminé, comme ça vous avez la soirée libre et vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire pendant le travail. Vous êtes très content aussi d'avoir le week-end, samedi, dimanche, parce que là, on peut faire des choses. On peut déjà aller voir la grand-mère à 70 km, ce qu'on ne peut pas faire la semaine, parce que l'aller-retour et tout le reste, c'est trop. Et quand les enfants partent ont leurs vacances, là, vous programmez un voyage à Majorque ou je sais pas où, et vous êtes très content de pouvoir. Alors, si quelqu'un vous pose la question, quel temps libre est le meilleur? La réponse est la même que à la question quelle forme de jeûne est la meilleure. Toutes les formes sont bonnes. Vous utilisez la forme qui vous convient à un moment donné, dans une situation donnée, et pour un temps donné. Et ce qui est la meilleure façon, par exemple, là, je ne jeûne plus une semaine parce que, mais là, je suis plutôt dans le 16-8. Disons, tout cela, vous avez certainement parlé au cours de la semaine. Alors, le 16-8, parce que, alors, là, c'était un ami qui m'a aidé beaucoup aussi. C'est Christian Talchaler, qui habite à 100 km d'ici, dans la Drôme. Et dans un livre, Alimentation, je sais pas, sur l'alimentation, il dit, si la femme de ménage est tout le temps occupée à la cuisine, elle n'a pas le temps de faire le ménage, voyez, en parlant de l'organisme. Si l'organisme est tout le temps occupé à la cuisine, il n'a pas le temps de faire le ménage. Et là, le ménage, en général, on est occupé, nous à l'extérieur, le jour, et le corps est occupé la nuit. De quoi, d'abord? Le corps a besoin de notre repos. Disons, on ne dort pas parce qu'on est fatigué, parce que le corps n'est pas fatigué. Mais il nous retire l'énergie à l'extérieur pour faire son boulot à l'intérieur. Et le premier boulot à l'intérieur, donc de l'organisme, la nuit, à partir du moment où vous dormez, c'est de assimiler la nourriture qu'il a tout juste eu le temps de digérer le jour après le repas. Et là, si, et là c'est le seul reproche que je peux faire aux habitudes alimentaires françaises, parce que je dis sans restriction, la cuisine allemande ne vaut pas la cuisine française. C'est peut-être même une des raisons qui m'a fait quitter l'Allemagne, c'est la cuisine, les habitudes gastronomiques allemandes, c'est n'importe quoi. Mais il y a une erreur en France, et ça c'est la société moderne qui l'a amenée. Votre repas du soir est trop opulent. C'est un vrai repas. En Allemagne, ça s'appelle Abendbrot. Et ceux qui connaissent l'allemand savent ce que ça veut dire. C'est le pain du soir. En Allemagne, on mange des tartines le matin, on mange des tartines le soir. Le seul repas, c'est le repas à midi. En France, ce n'est pas le cas parce qu'en France, on aime manger comme il faut. Et le seul vrai repas, c'est le repas du soir. Et c'est là où ce que vous appelez, et moi je suis linguiste, et je vous apprends quelque chose sur la langue française, parce que quand je vois un mot dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, je me pose des questions que vous ne posez pas, parce que c'est votre langue maternelle, vous l'avez appris à 2 ans, 3 ans, et là on réfléchit pas sur tel ou tel mot. Et c'est encore mieux en langue anglaise. Qu'est-ce que les Anglais prennent le matin? Ils apprennent le breakfast, breakfast, break fast. C'est la rupture du jeûne. Ça, c'est clair et net. Les Anglais, dans la langue d'aujourd'hui, les Américains, pareil, et tous ceux qui parlent anglais, le matin, ils rompent le jeûne, au moins dans le langage. Et qu'est-ce que c'est d'autre? Alors, j'ai appris le français en parlant, et donc je suis à l'aise quand je parle comme je parle là à vous, parce que je l'ai appris comme ça. Je n'ai jamais fait des études sérieuses en langue française. Donc, pour l'écrit, j'ai mis quand même 30 ans avant de... Ou 20, oui, 30, ça fait 50 ans qu'on est en France. Donc, au bout de 30 ans, je commençais à oser écrire des articles. Et là, je me heurtais à un problème majeur qui est l'orthographe français. Je pourrais vous faire un discours de mes critiques de l'orthographe français pendant 2 heures, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Qu'une faute d'orthographe que vous faites tous les jours, le petit déjeuner, il manque deux accents. Le déjeuner, voyez, c'est exactement breakfast. Et ça, et moi, en tant que linguiste, déjeuner, et vous déjeunez le petit déjeuner le matin, et le déjeuner à midi, c'est un déjeuner ici. Étant donné que c'est un dérivé du mot jeûner, ça veut dire que la condition d'existence primordiale, c'est de jeûner. Et on cherche dans la nature, on cherche, on collecte quelque chose à grignoter, et de temps à autre, on déjeûne. Voyez, la condition normale, c'est de jeûner, et de temps à autre, on déjeûne. C'est comme ça que c'est venu. Et c'est tellement, disons, je ne pardonnerai jamais à l'orthographe français d'avoir enlevé ces deux accents-là sur déjeuner. Parce que comme ça, les Français, quand on a introduit le jeûne sous forme de jeûne et randonnée en 90, ils nous ont regardé avec des grands yeux. Parce que vous avez enlevé le circonflexe sur déjeuner, quoi. Et donc, c'est sorti de la conscience française. On dit même, ça c'est une caricature, mais elle est vraie, elle contient du vrai. Un Allemand, il mange pour bien pouvoir travailler, un point c'est tout. Et un Français, il travaille pour bien pouvoir manger, voyez. C'est une
Oui,
caricature, mais c'est vrai. Ne pas manger en Allemagne, ça pose problème à personne. Parce que manger, manger, manger. On peut dire aujourd'hui, démarrage difficile pour le jeune en France, donc pour les stages généralement, heureusement, c'est derrière nous et derrière vous aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous annoncez quelque part généralement, tout le monde en a entendu parler. Donc le terrain est fait. Aux dernières nouvelles que j'ai eues par Alissa hier ou avant-hier, la fédération est à 99. Soyez le prochain qui adhère à la fédération, parce que je suggérais à l'instant hors antenne que le centième, il aura l'adhésion gratuite pour une année ou un truc comme ça. Vous voyez, alors, vous êtes 30 à courir maintenant pour être le centième. Ah oui, non, non, c'est inespéré. Ah, maintenant, il faut dire, puisqu'on parle de la situation du jeune en Europe, il y a peut-être 100 fois plus de pratiques de jeûne en Allemagne qu'en France. On a posé, parce que la première formation que j'ai organisée au bord du lac de Con non, en Forêt-Noire, donc pas loin de la frontière, mais assez proche pour que des médecins de la clinique du jeûne au lac de Constance ont pu participer. On était 25 personnes quand même, hein, donc 10 qui se sont lancés par la suite. À cette première formation en Allemagne, Christoph Michel était invité d'honneur. Je suppose que on vous a appris qui est Christoph Michel. Alors il était invité d'honneur et on lui a posé la question combien il y a des centres de jeunes et généralement en Allemagne. Et il a dit j'ai arrêté de les compter quand le nombre a dépassé les 1000. Voyez. Là on est content d'arriver à une centaine. En 2002 ou 3, je ne me rappelle plus exactement quelle année. En Allemagne, le nombre d'organisateurs généralement a dépassé le millier. Pour les besoins de leur documentaire, Sylvie Gilman, dans leur documentaire Arte, ils annoncent que 15 à 20 millions de Français ont déjà jeûné, 15 à 20 millions d'Allemands ont déjà jeûné. Là, vous voyez un peu la différence, et elle est culturelle, donc c'est comme ça, mais étant donné qu'avec ma femme, en 2006, on a passé jusqu'au lac Baïkal, ah oui, du lac de Constance jusqu'au lac Baïkal, mais aussi à Saint-Pétersbourg, on a vu tout ce monde-là, disons, les Russes qui apparaissent dans le documentaire, c'est qu'on les a stimulés, allez-y, allez-y, c'est du sérieux, vous pouvez, on vous prend au sérieux, allez-y, alors ils l'ont fait. En Russie, juste pour annoncer les chiffres, pour la réédition de mon livre qui sortira l'année prochaine, la plage m'a dit, oui, on est à 35 000 exemplaires vendus. C'est quand même pas mal pour un pays qui n'a rien voulu savoir du jeûne il y a encore 20 ans ou 30 ans. 30 000 exemplaires, c'est pas mal du tout. Mais le livre allemand de Helmut Lützner, qui existe aussi en version française, 2 millions d'exemplaires. Donc, vous voyez un peu la différence. 35 000 et on est content. 2 millions et c'est normal, quoi. Le livre le plus vendu sur le jeûne, et j'en ai acheté une quinzaine au lac Baïkal, à Ulan-Ude, sans connaître le russe, mais de temps à autre, je fais marcher la machine à traduire pour savoir ce qu'il y a dedans. Le livre le plus vendu en langue russe, 30 millions d'exemplaires vendus en 10 ans. 30 millions. Donc, si je dis il y a un rapport de 1 à 100 entre l'Allemagne et la France, oui, de 100 à 1 entre l'Allemagne et la France, il y a un rapport de 1 à 1 000 entre la France et la Russie. Par mon premier, non, la deuxième version, j'en parle déjà un peu, et j'étais cité après. Donc, les gens commençaient à parler du jeûne en Russie. Et là, j'ai eu un peu pris d'en haut, j'ai eu la réflexion, Oui, les Russes, ils n'ont pas quand même les machines, ils n'ont pas le matériel. Voyez, c'est des paysans, des buveurs de vodka et tout. Ils ne peuvent pas faire ce que nous pouvons faire. Donc, ils sont obligés de se tourner vers le jeûne, voyez. Et une dame dans le documentaire dit la même chose. Je pensais, moi, je pouvais me permettre de faire plus que ne pas manger, quoi. Et donc, ça, c'est un. Ça, c'est un. Ah oui, un argument qui me vient. Quand on a proposé des stages et quand il y a eu des articles, il y avait une phrase qui revient souvent. Et en plus, ça coûte de l'argent. Dire, on ne donne rien à manger et en plus, ça coûte de l'argent. Et là, je trouvais très rapidement une riposte. Je vous la livre. Si quelqu'un vous arrive comme ça, je dis, mais vous avez tout à fait raison. Mais il y a pire que ça. Vous voyez, dans un stage de plongée à l'apnée, vous payez pour un week-end le prix que vous payez pour la semaine dans un stage général donné. Et on ne vous donne même pas l'air pour respirer, vous voyez. C'est-à-dire, des centres de randonnée, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Et je ne sais pas si la fédération le demande encore pour un accompagnateur général randonnée, et je suis d'accord pour que ça continue. Et il y a la formation de la Fédération française de randonnée, FFR. Et. Parce que si vous traversez une route, et ça va vous arriver dans votre pratique, avec 12 personnes derrière vous, il y a des règles à connaître et il ne faut pas les apprendre par deux ou trois accidents qu'on aurait pu éviter. Il y a une façon de le faire et ça, vous l'apprenez dans un stage de randonnée, accompagnateur de randonnée. Ce n'est pas un diplôme, mais avec ça, vous pouvez lancer. À l'intérieur de la Fédération française de randonnée, vous pouvez accompagner des groupes dans votre secteur, sur vos collines et tout. Et ça, c'est absolument nécessaire. Maintenant, je ferme cette parenthèse-là. Est-ce que je suis déjà arrivé à 2000? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, je vous ai dit à chaque fois que je vois Walter Longo, parce que lui aussi, il a participé à une conférence sur le jeûne intermittent. Et c'est là où je lui ai dit, et là c'est mon dada actuellement, et l'éditrice de La Plage a dit, mais ce n'est pas vraiment un sujet pour un livre sur le jeûne. Oui, j'y tiens. Nos ancêtres, vos ancêtres, nos ancêtres, à nous tous, ont pratiqué le jeûne intermittent depuis des millions d'années, obligatoirement, chaque hiver, pendant la nuit. Parce qu'avant l'arrivée de l'éclairage électrique, qu'est-ce qu'on fait quand la nuit tombe? On se couche. Et Gertrude et moi, on était 68 heures pur et dur. Et quand on est arrivé dans la Drôme, pas encore à Léoux, mais plus bas, dans un petit chalet finnois, il y avait le courant qui passait à 50 mètres. Et on ne l'a pas pris. Pendant 5 ans, Gertrude et moi, on a vécu sans courant. Et Nicolas, que je vois en haut et à gauche sur les petits écrans, et son frère Christophe, qui est venu un peu après, disons, on était quatre dans ce petit chalet, sans courant électrique. Et comme toujours, les parents, ils couchent les enfants et ils recommencent encore à faire des occupations le soir. Là, sans courant électrique, qu'est-ce qu'on peut faire? On avait une lampe à pétrole, ça pue, donc on a arrêté, on a une lampe à gaz, ça fait du bruit, et quand la cartouche est vide, les bougies, on est arrivé aux bougies, comme pendant des dizaines de milliers d'années, pour s'éclairer un peu. Et finalement, au bout de 3 ans, on a constaté que nous aussi, on est retourné dans le rythme habituel, disons habituel pendant des millions d'années. On dormait 10 heures en hiver et 5 heures en été. Et à l'époque, je ne pouvais même pas comprendre comment se fait-il qu'en été, on se couche tard parce qu'on peut encore travailler, parce qu'on travaillait un quart d'hectare de jardinage à la main. Et il y a beaucoup de travail en été. On se couche tard et le matin, disons, on se réveillait naturellement, sans café, sans rien, après 5 heures de sommeil. Et à l'époque, je ne comprenais même pas comment se fait-il que en hiver, on dort si longtemps. Et alors, je reviens à cette phrase de Christian Thalschiller. Quand la femme de ménage est tout le temps occupée à la cuisine, elle n'a pas le temps de faire le ménage, en parlant de l'organisme. Pendant les longues nuits d'hiver où nos ancêtres dormaient 10 voire 12 heures au plus profond de l'hiver, le corps peut faire tellement de boulot que en été, il se contente de 5 heures, il n'a pas besoin de plus. Parce qu'il sait que le boulot qui petit à petit s'accumule, il peut s'en occuper l'hiver prochain. Donc ça c'est, disons, j'ai essayé, j'ai même envoyé un truc à Nicolas Hulot en tant que ministre encore. Je lui ai dit avant de claquer la porte, puisque on se tutoie entre écologistes, j'ai dit mais avant de claquer la porte. Tu peux lancer un pavé dans la mare et tu peux proposer à ce que le temps de travail suit les saisons, c'est-à-dire 8 heures de travail au printemps, à l'automne, parce que là, ça colle bien, 10 heures en été et 6 heures en hiver. Mais disons, il a claqué la porte sans le faire parce que ça n'allait pas. Pour moi, c'est quelque chose c'est une idée 68 tard. J'ai publié ça en 70, mais en Allemagne, quoi. Et de suivre les saisons. Et en suivant les saisons, on fait un jeûne intermittent chaque nuit d'hiver pendant 2, 3 mois. Et ça correspond à votre semaine de jeûne et randonnée. C'est-à-dire, quand on accumule les semaines, disons, quand on accumule les 7 fois ou 6 fois 24 heures, là, vous êtes. C'est comme si pendant un mois ou deux, le corps a 2 heures chaque nuit. Où le mot déjeuner, le petit déjeuner est justifié, quoi. Et donc ça, c'est la dernière chose. Sinon, dans mon planning, maintenant, je suis arrivé à l'an 2000. Qu'est-ce qu'il y a eu de... Ah oui, c'est quand même la création de l'Académie médicale du jeûne. J'étais très content aussi que finalement, les médecins, avec... Ah oui, ça me fait venir aussi à autre chose. Souvent, on lie le jeûne à l'hydrothérapie du côlon. Et ma femme l'a fait pendant 10-15 ans. Je sais que Nicolas a fait la formation, ma belle-fille Réa aussi. Et ça va souvent ensemble parce que quand on fait l'hydrothérapie du côlon, en ville comme ça, sans semaine de jeûne et randonnée, on doit se présenter à la diète pendant 2 ou 3 jours parce que c'est pas la peine de manger un steak frites et de se faire vider le côlon après, quoi. Parce que c'est le moment idéal de faire une hydrothérapie du côlon, c'est pendant la semaine de jeûne. Et je ne sais pas où en est tout le monde aujourd'hui, les 100 organisateurs, mais il y a toujours un centre à proximité. Et c'est là où, en tant que linguiste, si vous faites ça vous-même, il ne faut pas l'appeler hydrothérapie, parce qu'il y a le mot thérapie dedans.
Irrigation.
Il faut appeler ça irrigation colonique. Vous voyez? Vous irriguez le côlon comme vous irriguez votre jardin, quoi. Donc, c'est une simple. Et je vous ai parlé du danger de l'exercice illégal de la médecine. Donc même quand vous parlez de cette pratique-là aussi, vous la proposez, je vous demande d'appeler ça de la seule manière que vous avez le droit de l'appeler, l'irrigation colonique. Vous vous lavez les dents, vous vous lavez les intestins. C'est ni plus ni moins qu'un nettoyage, vous lavez votre voiture, oui, on peut le dire comme ça aussi. Et il ne faut pas être mécanicien pour laver sa voiture, vous voyez, c'est un peu ça. Disons, je vous conseille de faire attention à ça. Alors, quoi d'autre? Moi, j'aimerais, et je ne sais pas comment fonctionne Zoom, parce que c'est, on a fait une répétition brève il y a une semaine pour que je sache ce que c'est, mais j'aimerais bien que maintenant, puisque vous arrivez à la fin de votre semaine de formation, que vous pouvez profiter de la possibilité de poser des questions à quelqu'un comme moi et ma femme qui pendant 30 ans a organisé des stages et qui a entendu des questions et qui, bien sûr, d'une semaine à l'autre, on a vu que telle ou telle réponse, ça passe bien et telle ou telle autre réponse, ça passe moins bien. Donc, j'aimerais, ou je pose la question à Nicolas, est-ce que, ou à Sandrine, est-ce que je dois traiter encore un sujet
Non,
avant d'ouvrir la discussion?
oui, on peut laisser les gens s'exprimer, ils vont ouvrir leur micro et poser des questions s'ils en ont, oui. Comme
Comme
ça, écoutez,
ça,
oui.
c'est une bonne idée. Comme ça va amener peut-être un sujet encore à traiter par les questions. Ça peut être une bonne possibilité.
De faire.
S'ils ont des questions, allez-y.